Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.9 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Votre émission « Votre santé, un trésor » d'aujourd'hui va aborder la fin de Napoléon Bonaparte et son martyr. On peut vraiment parler de martyr durant son séjour à la fin de sa vie sur l'île de Sainte-Hélène. Mais il ne peut empêcher la prise de Paris le 31 mars 1814. Il abdique quelques jours plus tard. J'ai invité aujourd'hui pour cette troisième émission sur Napoléon, sa fin et ses maladies, à Sainte-Hélène, le docteur Xavier Rio, directeur de collection aux éditions L'Harmattan, qui supervise la collection qu'il a créée, médecin à travers les siècles, depuis 2006, spécialiste de l'Empire et que vous connaissez bien à présent. Bonjour à vous, docteur Xavier Rio, et encore bienvenue à notre émission « Dans votre santé, un trésor » sur Radio Alliance Plus.
Merci, c'est toujours un plaisir.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler les conditions de vie de Napoléon à Sainte-Hélène ?
Bon, Sainte-Hélène, c'est d'abord une île volcanique située à 1900 km à l'ouest de l'Afrique, en plein Atlantique Sud. Elle comprend à l'époque près de 5 à 6 000 habitants. C'est une île qui ne dispose que de 3 accès à la mer, ce qui fait que l'isolement avec l'escarpement de ses falaises rend l'île extrêmement facile à surveiller et à défendre pour les Anglais. C'est une île qui est exposée de façon constante au vent alizé, qui est souvent plongée dans le brouillard, avec une humidité persistante et des alternances soudaines de violentes pluies et de soleil ardent. Napoléon est placé à Longwood House, qui est l'équivalent d'une ferme, mais qui est dépourvue de confort et surveillée en permanence par les gardiens. Il est soumis à des vexations de la part du gouverneur britannique de l'île Hudson Law. Les relations d'ailleurs seront toujours très tendues entre les deux hommes. Ses armes sont confisquées, son courrier est ouvert. Et il n'a aucune liberté, il a une liberté de mouvement qui est très restreinte et qui attise par l'exil les susceptibilités, qui autorise les mesquineries britanniques parce que personne ne contrôle. Et progressivement, l'environnement de Napoléon va s'étioler, un certain nombre de personnes vont partir de Sainte-Hélène et progressivement l'île se vide et on va tomber à Longwood dans une atmosphère d'attente, de langueur, d'ennui à peine supportable. Cet ennui va faire que progressivement, Napoléon va limiter ses déplacements, ses promenades à cheval, ses activités, ses promenades à pied également. Le couvre-feu, le climat malsain vont faire de lui progressivement un obèse et qui va voir son état de santé se dégrader considérablement.
Voilà, alors, on avait parlé dans les précédents épisodes, dans les précédentes émissions, d'épisodes dépressifs. Alors, sur Sainte-Hélène, est-ce que Napoléon est dépressif ? Est-ce qu'il est mal ?
Oui, bien sûr. L'ennui le pousse en ce sens. Et puis, il y a des épisodes qui sont rapportés, notamment... Par tous les rapports médicaux de l'époque, si on se base sur une des hypothèses de décès qui est évoquée par le docteur Alain Gaultier, qui a reçu pour son livre le prix de l'Académie nationale de médecine, il dit bien cette chose que, j'évoquerai plus tard peut-être la cause de la maladie,
il
insiste sur le syndrome dépressif. Un syndrome dépressif fort, une pathologie de stress combinée à une infection ancienne, chronique et familiale. Donc c'est vraiment quelque chose d'omniprésent et dont tous les médecins font état, mais il ne peut pas en être autrement compte tenu des vexations qu'il subit régulièrement. Et donc globalement, tous les médecins qui vont accompagner, à l'exception d'un ou deux pro-britanniques ou d'origine strictement anglaise, tous les médecins vont signaler les abus de pouvoir répétés et réguliers du gouverneur anglais britannique Hudson Law, qui d'ailleurs à son retour en Angleterre tombera en disgrâce, parce qu'on lui reprochera justement ses excès.
Oui, oui. Et alors, il était accompagné, dites-nous par qui il était accompagné, bon, par quelques soldats, mais autour de lui.
Par quelques soldats, mais aussi un certain nombre de médecins, des proches qui ont accepté de l'accompagner là-bas. Donc, il a un environnement quand même assez proche. Il a un environnement qui est plus restreint qu'à l'île d'Elbe, mais qui est quand même avec des familiers, des proches de la famille, des Gourgaud, Bertrand. Et leur famille, leurs femmes qui vont une petite cour à un moment
Ouais.
donné. Napoléon d'ailleurs va envoyer un peu tout Hutzendlo balader et va réinstaurer une petite cour monarchique au sein de Longwood auprès de ses proches, de ses officiers et de leur famille, justement. Voilà, donc, mais c'est un environnement qui est extrêmement malsain.
Alors ce qu'on n'en évoque jamais, que j'ai eu l'occasion, parce que je reviens de Vienne, de voir, c'est qu'en fait, bon, sa deuxième épouse, qui n'était pas forcément un mariage d'amour, donc il ne la revoit plus, mais surtout, il ne revoit plus son fils qui va mourir à Vienne, relativement jeune. Et donc c'est quand même un déchirement, c'est quelqu'un qui était un père de famille, il était d'une famille quand même nombreuse, une famille aimante, hein, une famille corse, où tout le monde était lié, et il se retrouve complètement seul, il n'a qu'un fils qu'il ne voit plus, on refuse à son fils de venir le voir. Son fils va mourir loin de son père, c'est quand même une souffrance énorme.
Il y a des polémiques autour de la mort du roi de Rome, dans le sens où, compte tenu de la montée en puissance. Alors, Napoléon est à Sainte-Hélène, mais il y a une résurgence du napoléonisme dans toute l'Europe. Et des gens comme Metternich vont avoir peur de cette résurgence. Et il serait dit, il y a une polémique qui a
Oui.
laissé entendre qu'il aurait été dit qu'on aurait abrégé la vie du roi de Rome par empoisonnement, mais par le biais du dentiste qui s'occupait de lui à l'époque.
Oui, il était
Et
d'ailleurs il y
c'est
a
une
ce.
polémique au conditionnel, là aussi. On ne peut pas. Être certain de la chose, c'est un bruit qui a couru, qui a été véhiculé, voilà. Donc bon, ça reste au
Mais après,
conditionnel, hein, j'insiste là-dessus.
le roi de Rome à Vienne était surveillé en permanence et on a gardé son lit, le lit où il est décédé, qu'on peut aller voir encore. Alors, quels étaient les médecins de Napoléon à Sainte-Hélène? Il était entouré par des médecins?
Il y en a eu beaucoup parce que Napoléon n'était pas un patient facile. Le premier d'entre eux, c'est Louis Fouroux de Beauregard, qui va accompagner Napoléon sur l'île d'Elbe et qui va être son proche collaborateur pendant les 100 jours, qui va se proposer auprès de l'oncle de Napoléon, le cardinal Fesch, pour accompagner Napoléon à Sainte-Hélène, mais il réclame des honoraires annuels à 15 000 euros et la qualité première de. Enfin, où le défaut premier du cardinal Fesch, c'est l'avarice. Il va estimer qu'il coûte cher et va refuser la demande de ce médecin. Donc il ne reverra plus après les 100 jours, il ne reverra plus Napoléon. Le deuxième, c'est Louis-Pierre Mengo, à qui on va mentir un peu. Il est convaincu qu'il part pour les Amériques, mais il veut démissionner quand il apprend qu'il doit partir sous les tropiques et à plus forte raison accompagner l'empereur. Et sous la pression des Britanniques, qui ont peur de ne pas trouver un autre médecin, il va quand même embarquer dans le Bellérophon, mais il va maintenir son refus de partir à Sainte-Hélène. Il ne va pas discuter avec Napoléon. Atteint du mal de mer, il ne va pas quitter sa chambre. Et l'empereur va finalement être extrêmement dégoûté de son attitude et ne plus vouloir, ne serait-ce lui parler, lui-même lui donner la moindre attestation de retour. Donc, c'est très compliqué. Il sera suivi finalement par le docteur Barry Edward O'Meara, qui est un chirurgien irlandais, qui officie sur le Bellérophon et qui va accompagner Napoléon à Sainte-Hélène. Ils vont devenir amis parce qu'il y a une estime réciproque qui va s'installer. Et puis surtout, O'Meara ne va pas accepter la vindicte du gouverneur Hutzendlo, qui va menacer dans un premier temps de le congédier, puis qui va finalement le congédier en 1818. Et au retour en Angleterre, O'Meara fera état des abus de pouvoir de Hutzendlo dans un livre qu'il va publier en 1822, qui fera grand bruit sur les conditions de vie de l'empereur. Le médecin suivant, c'est John Stocco, qui est un médecin britannique. Mais un grand ami d'O'Meara, c'est qui va l'ouvrir les portes, parce que Napoléon ne veut pas se faire soigner par un médecin anglais.
Oui.
Il accepte les Écossais et les Irlandais, mais il refuse les Anglais. Et Stokoe est anglais, mais un grand ami de Barry O'Meara. Et donc, il va l'accepter en son sein. Ils vont sympathiser véritablement. Mais Stokoe va présenter un compte-rendu un compte-rendu médical en 1819, compte tenu de l'état général du malade, qui est alarmant, ce qui va déplaire à Sir Hudson Lowe et qui va donc le renvoyer de l'île. Il ne sera resté médecin que 6 jours auprès de l'empereur.
Oui, c'est peu,
Il
oui.
reste un autre médecin, c'est peu, ouais. James Roquevrling, qui est le médecin anglais à l'époque. Napoléon reconnaît la valeur du médecin, il reconnaît que c'est un très très bon médecin, mais malheureusement, c'est un anglais affidé de Hudson Lowe. Et donc, évidemment, il se rend compte que ce qu'il va lui dire, Verling va le répéter à Hudson Lowe, ce qui évidemment ne convient pas à l'empereur,
Oui.
et que Verling ne verra Bonaparte que très occasionnellement et ne le soignera pas véritablement. Le
D'accord.
suivant, bah, c'est celui que le cardinal Fesch va lui envoyer, Francesco Anto Marchi, d'origine corse, que Napoléon ne pourra pas supporter parce que, selon l'empereur, il est bête, il est inculte, il est plus soucieux d'aller à Jamestown, la ville de Sainte-Hélène, pour courir les jupons, pour faire état de. Il est très mythomane et donc raconter des choses qui n'ont jamais existé. Napoléon passe son temps à l'appeler, à courir après pour qu'il vienne faire son office, ce qu'il ne fera pas non plus. Donc, c'est pourtant Francesco Anto Marchi qui va lui fermer les yeux. C'est aussi lui qui va réaliser une autopsie du corps. Et c'est enfin lui qui, comment dire, va réaliser un masque mortuaire discuté par la suite. Car beaucoup des choses que Anto Marchi va publier seront publiées post-Sainte-Hélène, à son retour en France, bien des années plus tard, donc sur la base de son souvenir. Et puis, il y a un dernier médecin, le docteur Archibald Arnold, qui est lui écossais. Comme je l'ai dit, Napoléon refuse les médecins anglais. Par contre, un médecin écossais, la Old Alliance, hein, comme on la connaît entre l'Écosse et la France, eh bien, ce médecin écossais va avoir son accessite auprès de l'empereur, mais il va participer véritablement qu'au dernier moment à l'agonie et donc à la mort de l'empereur. Voilà, lui aussi aura réalisé un masque funéraire, mais le médecin n'en a jamais fait état dans ses mémoires. Il va récupérer une mèche de cheveux, voilà, et donc il va quitter Sainte-Hélène derrière. Donc un parcours médical compliqué et un suivi médical tout autant compliqué, évidemment, parce que le patient de lui-même n'était pas forcément un patient facile.
Oui, et puis vraiment, c'est une situation très, très, très particulière. Alors, après sa mort, Napoléon
Et
a su.
donc le véritable, ce qui a rendu les choses conflictuelles et compliquées, c'est que on est sur une gestion de l'île de Sainte-Hélène par Hudson Lowe, qui refuse le titre d'empereur à Napoléon et qui l'appellera toujours mon général.
Oui.
Et on est sur un conflit de légitimité où l'empereur, lui, revendique son statut d'empereur et demandera à ce qu'on le traite comme un empereur.
Oui.
Ce qui, évidemment, vu qu'il n'a pas le pouvoir et que c'est les Anglais qui décident, va générer d'énormes conflits et qui se retranscriront bien sûr sur la pratique médicale qui sera faite sur l'illustre patient.
D'accord. Alors après sa mort, Napoléon a subi une autopsie que nous dit le rapport d'autopsie de François Carlo Antomiacci, médecin corse, comme Napoléon, vous l'avez dit, qui est attaché en 1820 au service de Napoléon, prisonnier à Sainte-Hélène.
Oui, alors, il faut nuancer, il y a eu trois rapports d'autopsie. Le premier qui est le rapport officiel dit de George Arnott, qui est arrivé tout de suite après la mort, qui a été remis à Hudson Lowe. Le suivant, alors celui-ci, Anto Marchi va refuser de le signer et il va émettre un contre-rapport à Bertrand et à Montholon, qui sera publié en 1825, mais qui sera très décrié parce qu'évidemment, il sera basé sur beaucoup de souvenirs et il omettra des choses essentielles. Et puis, il y a des notes d'un autre médecin missionné par Hudson Lowe qui seront donc rédigées par Henry. Voilà, donc en gros, là, ce que le rapport d'autopsie d'Anto Marchi décrit. La face extérieure convexe du poumon gauche adhérente en différents points à la plèvre costale correspondante, environ 3 onces d'humeur lymphatique dans le sac de la plèvre costale gauche, environ 8 onces du même liquide lymphatique dans le sac de la plèvre costale droite, Les poumons sont dans un état normal, le cœur dans un bon état, enveloppé dans son péricardium et recouvert d'un peu de graisse. L'estomac, les intestins, le foie, la rate et le grand omentum à leur place naturelle. La face supérieure convexe du lobe gauche du foie adhérente à la partie correspondante de la face concave du diaphragme. La face intérieure concave du dit lobe fortement adhérente à la partie antérieure et à la petite courbure de l'estomac ainsi qu'au petit omentum. Ayant détaché avec soin tant avec le scalpel qu'avec les doigts les dites adhérences, j'ai observé que l'adhérence de la face concave du lobe gauche du foie formait un trou du diamètre d'environ 3 lignes dans la face antérieure de l'estomac, près de son extrémité droite. Ayant ouvert l'estomac derrière sa grande courbure, j'ai observé qu'il était rempli en partie d'une substance liquide noirâtre d'une forte odeur, d'une odeur piquante et désagréable. Ayant ôté le dit liquide, j'ai observé un ulcère cancéreux fort étendu qui occupait spécialement la partie supérieure de la face interne de l'estomac et s'étendait de l'orifice du cardiaque jusqu'à environ 1 pouce du pylorum. Sur les bords de cet ulcère vers le pylorum, j'ai reconnu le trou ci-dessus désigné, produit par corrosion ulcéreuse des parois de l'estomac. Les parois ulcéreuses de l'estomac étaient considérablement gonflées et endurcies. Entre l'ulcère et le pylorum, et contigu à l'ulcère, j'ai observé un gonflement et une dureté squéreuse de la largeur de quelques lignes qui occupait circulairement l'extrémité droite de l'estomac. Le foie était engorgé d'une grosseur plus que naturelle. Tous les intestins étaient en bon état, mais remplis d'air. Voilà sommairement à peu près ce
Oui.
qu'il dit. Bon, il fait un descriptif assez détaillé quand même.
Oui, donc c'est fixé sur l'estomac. Je vous propose une trêve musicale avec Vive l'Empereur. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Xavier Herriot qui nous parle de Napoléon, sa faim et ses maladies à Sainte-Hélène. Pouvez-vous nous évoquer les polémiques sur la théorie de la mort de Napoléon et plus particulièrement son éventuel empoisonnement?
Alors, l'empoisonnement, c'est vraiment ce qui achoppe entre le milieu napoléonien étranger et le milieu napoléonien français. Je pense notamment, principalement, du milieu napoléonien canadien, qui, pour lui, a réussi à missionner des études sur la base de cheveux qui ont été récupérés, qui auraient été récupérés chez Napoléon, par des proches ou des conservateurs du musée de Malmaison. Et ces cheveux ont subi des bombardements neutroniques qui ont permis de déterminer un empoisonnement à base de mort au rat. La mort au rat ayant été retrouvée non pas en surface du cheveu, mais dans la structure même du cheveu, ce qui conclut indubitablement à la mort par empoisonnement, puisque ça a été ingéré pour arriver là.
Oui, pour arriver, oui.
Le seul problème, bon, moi, ce que je souscris pas mal à cette hypothèse, mais j'ai un problème majeur, c'est que les études, les bombardements neutroniques n'ont pas, avant de faire le bombardement neutronique, en bonne logique et en bonne cohérence, il aurait fallu procéder à une authentification absolue des cheveux qu'ils avaient en leur possession, c'est-à-dire une analyse d'ADN pour déterminer un lien de parenté avéré, reconnu avec la famille ou la descendance napoléonienne. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été fait.
Alors,
On s'est basé sur le oui,
je
sur le
vous.
oui dire, l'attestation des personnes qui ont fourni les cheveux. Ils ont récupéré des cheveux de différentes personnes dans le monde. Hein. Et, comme je parlais du commandant Lachouc qui a été en 1960, le conservateur du musée de Malmaison, hein, qui était un historien napoléonien reconnu. Et ces analyses, il n'y a pas eu d'analyse ADN sur ces racines capillaires. Et on a affirmé avec certitude sur ce bombardement neutronique l'empoisonnement de l'empereur sans avoir procédé à l'identification des cheveux. C'est en cela que l'hypothèse de l'empoisonnement personnellement me dérange un petit peu. C'est la vérification de l'échantillon de base comme quoi c'était bien un échantillon de Napoléon.
Alors,
On était certain que c'était bien apparenté.
votre remarque est fondamentale. Je reviens de Paris où j'ai été justement à la maison, où j'ai vu les cheveux. Donc avant de faire une étude, il faut savoir d'où vient le matériel. Donc il est évident qu'il faut
On
faire
est d'accord.
une
On est d'accord.
analyse pour savoir si au moins les cheveux appartiennent à l'empereur. Alors
On est d'accord.
un exemple, c'est comment à la basilique où est enterrée la reine Marie-Antoinette, il y a le cœur de Louis XVII. Eh bien justement, on a fait des analyses ADN pour savoir si c'était vraiment Marie-Antoinette qui a été positive, et le cœur aussi qui a été conservé par le médecin lors de son autopsie. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que c'est le cœur de Louis XVII. Donc votre remarque est justifiée justement, elle peut être comparée à cette expertise. Et alors, est-ce qu'il y a eu
Voilà.
d'autres différentes théories sur...
Oui, il y a la pathologie gastrique. Hein. On a parlé dans le rapport d'autopsie d'un ulcère cancéreux, c'est ce qu'Andomarki décrit. Mais le cancer a été réfuté plusieurs fois. Moi, personnellement, ma conviction, elle est qu'il y a une pathologie gastrique, effectivement. Mais comme je l'ai évoqué précédemment, il peut très bien y avoir eu aussi un empoisonnement pour éviter la résurgence du mythe napoléonien en Europe, hein, et mettre un terme à la situation qui d'un éventuel retour de l'empereur en Europe. Les deux auraient très bien pu se combiner, mais là, ça reste de la spéculation. On a la thèse d'une pathologie urinaire sévère. On a vu qu'à Waterloo, il n'urinait plus, hein, qu'il souffrait énormément de cela. Ça a été confirmé dans le rapport d'autopsie d'Andomarki, hein, que la vessie était vide et très rétrécie, hein, qu'elle renfermait des calculs. Donc, il y a la thèse d'un urologue nantais qui, selon lui, Napoléon aurait souffert d'une insuffisance rénale grave. Qui aurait pu aboutir à l'issue fatale que nous connaissons. Il y a l'aspect apnée du sommeil et bipolarisme, hein, la dépression aussi, et l'apnée du sommeil conséquente. À la fin de sa vie, il ne dort plus avec Marie-Louise, hein, il ronfle énormément, ils font chambre séparée. Et ça, il y a des témoignages qui l'attestent. Donc l'apnée du sommeil est possible aussi. Et puis surtout, il y a la théorie du docteur Alain Golcher qui a reçu le prix de l'Académie de médecine. La pathologie qu'il a décrite a été décrite pour la première fois. C'est pour ça qu'il y a une dissonance entre les symptômes et les pathologies évoquées en 1821 et puis la description véritable qui est survenue en 1842 par le professeur Jean Cruveillier de la Faculté de médecine de Paris. Et qui décrit une gastro-orragie chez une de ses patientes et qui correspond véritablement à, semble-t-il, à ce qui s'est passé chez Napoléon. Et Alain Golcher dit cette chose. Donc, la cause immédiate de la mort de Napoléon est une anémie par micro-saignement répété ayant conduit à une exsanguination progressive et à un arrêt cardio-respiratoire. Toujours selon lui, la cause initiale de sa mort est une maladie ulcéreuse chronique de l'estomac et un syndrome dépressif, je vous l'ai dit.
Oui.
Précédemment. Voilà, donc, et ça rejoint ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'il y a des termes, des symptômes qui n'étaient pas connus à l'époque et qui font qu'aujourd'hui, on spécule sur la mort véritable de l'empereur et qui rend très compliqué la désignation effective de sa maladie. En définitive, on reste sur des points d'interrogation.
Oui, on sait pas. En fait, on ne sait pas. Alors, la question qu'on...
Il y a plein de spéculations de plein d'auteurs différents. Voilà, même la mienne sur la théorie de la pathologie et de l'empoisonnement conjoint reste une spéculation absolue. C'est un ressenti, c'est tout. C'est un ressenti, rien d'autre. Hein. Il
Alors,
n'y a aucune certitude là-dessus.
je vais vous poser une question un peu polémique qui n'était pas prévue dans nos questions. C'est, on a le corps de l'empereur qui est revenu, qui est dans son cercueil. Est-ce qu'on pourrait faire une autopsie actuellement, et quelles sont les réserves des gens qui ont le pouvoir de l'admettre ou pas?
Alors le problème, c'est pas une question polémique, c'est que le problème, c'est que il y a des bruits qui courent, il y a des textes qui ont été publiés dans l'immédiat après décès de Napoléon en Angleterre, comme quoi le corps qui a été rapatrié aux Invalides ne serait pas forcément celui de Napoléon. De cela, on a aucune trace, aucune preuve. Aujourd'hui, on pourrait faire une autopsie, on pourrait faire des analyses ADN. L'ADN dentaire et l'ADN qui est enfermé dans une dent se conservent parfaitement. On pourrait savoir des années après, et des siècles après même, s'il s'agit bien de l'empereur déjà. Ensuite, on pourrait faire une autopsie et déterminer pas mal de choses sur les causes de sa mort. On pourrait définir cela. Le seul problème, c'est que le milieu napoléonien français, probablement parce que c'est considéré comme un patrimoine inaltérable et intouchable de la France, se refuse catégoriquement à ces analyses médico-légales sur le corps de l'empereur. Et du coup, on en est au point mort et tout le monde spécule et on ne sait pas, même s'il y a des suspicions, même si on a salué le travail du docteur Alain Golcher, même si, voilà, on théorise sur un certain nombre de choses, on n'est pas certain à 100% finalement de la cause qui a amené la mort de l'empereur. Et aujourd'hui, les techniques médico-légales sont suffisamment fortes et fiables pour avoir des résultats probants, quoi, tout simplement. Mais malheureusement, le milieu napoléonien français s'y est refusé et ne cherche même pas d'ailleurs à savoir. Moi, j'aimerais savoir personnellement, j'aimerais beaucoup savoir, ça m'intéresserait beaucoup.
Eh bien,
Et ouais, c'est pas le cas aujourd'hui.
docteur Xavier Riault, nous vous remercions encore une fois de nous avoir prodigué vos connaissances et votre passion sur Napoléon Bonaparte. Merci infiniment à vous.
Merci à vous.
J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé au docteur Xavier Riault de nous citer un livre sur cette période. Il m'a signalé celui qu'il a écrit, Napoléon Ier et ses dentistes. L'Harmattan, collection médecine à travers les siècles, Paris 2016. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé et un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.